L'occasion m'est donnée pour vous dire quelque chose à cause des circonstances. Dans notre vie chrétienne, le renoncement, vous savez bien, est une chose importante, donc l'obéissance. Et on n'a pas toujours la conscience de ce qu'est l'obéissance. Je vais vous donner un exemple. N'y voyez aucun reproche. C'est juste à cause des circonstances. Par exemple, aujourd'hui, nous étions nombreux à l'église. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Si, il y a de la place pour tout le monde. Il y a même encore de la place pour d'autres, si il y a besoin. On pourrait être le double. Mais le temps nous est compté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le célébrant, on ne sait plus qui c'était, a vénéré assez rapidement les icônes principales de l'iconostase, c'est-à-dire le Christ et le Sauveur, avec une seule métanie, la parfaite métanie au milieu, et il est parti aussitôt. Si nous sommes obéissants, nous faisons comme lui. C'est pas par mime, c'est pas par imitation, c'est parce que quand il faut être attentif, s'il y a des choses comme ça, il y a une raison. La liturgie, toute liturgie, pas simplement la liturgie eucharistique, toute liturgie est une manifestation de l'Église, c'est-à-dire d'une communauté, pas d'individus qui sont réunis, mais d'une communauté, d'un corps unique. Et c'est le corps, c'est ce corps-là qui se manifeste, qui vit pendant un office. Et on oublie nos problèmes, notre attitude, nos besoins, nos envies individuelles. Ce qui compte, c'est le mouvement d'ensemble. Et je veux vous dire, à titre d'exemple, quand on est nombreux comme ça, qu'est-ce qui est le plus important, d'après vous? Ne me donnez pas de réponse, parce que moi, je vais vous la donner. Enfin, je ne vais pas vous la donner, les points de suspension seront une réponse en eux-mêmes. Qu'est-ce qui est le plus important? Que la moitié de la communauté ait le temps de vénérer, de faire ses dévotions, avec trois métanies à chaque icône, plus l'icône votive, l'icône de la fête du jour. Et puis après tout, pourquoi pas aussi une autre icône à droite et à gauche de l'église prenne son temps, et qu'il n'y ait que la moitié de la communauté qui puisse passer? Ou est-ce que les saints, la Mère de Dieu et le Christ ne peuvent pas, pour exceptionnellement, se contenter d'une seule métanie pour que on défile vite, non pas pour bâcler la vénération, mais pour que tout le monde ait le temps de passer? Il faut être attentif à ces choses-là. C'est un exemple, ça arrive souvent dans l'année. Il faut être attentif, je ne parle pas que pour ces dames. Il faut être attentif et se soumettre d'une certaine manière. Là, c'est un cas d'obéissance, si vous voulez. Je ferme la parenthèse. C'est beau d'avoir des vénérations personnelles, mais si je puis dire, l'office ou la liturgie ne sont pas le moment d'avoir des dévotions personnelles. La liturgie elle-même, je vais vous scandaliser en le disant, sauf si vous comprenez dans quel sens je veux le dire, la liturgie n'est pas un acte de prière. La liturgie n'est pas une prière. On n'est pas là pour prier. Bien sûr, ce que l'on vit, c'est une prière. Dans la mesure où la prière est une union à Dieu, il est évident que la liturgie est une prière. Mais ce n'est pas une prière que chacun fait indépendamment des autres, suivant ses inclinations, suivant ses habitudes, suivant ses principes ou ses actes de vénération. C'est une danse d'ensemble. C'est tout le monde ensemble qui vit quelque chose. C'est une célébration, ce n'est pas une prière. Il faut faire la distinction. Une célébration, c'est-à-dire une fête commune. Tout le monde, chacun à sa place, agit, vit une réalité, un mystère unique, mais chacun le vit différemment, et on oublie intentionnellement ces individualismes de manière à former un corps cohérent qui est l'Église. Je referme une deuxième fois la parenthèse. On a chanté tout à l'heure, « Ne détourne pas ta face, car je suis dans l'affliction. Empresse-toi de m'exaucer, prête attention à mon âme et rachète-la. » En même temps, enfin pas en même temps, mais tout de suite, dans la lecture, dans les lamentations d'Adam, nous avons entendu une autre phrase que je ne suis pas capable de vous répéter absolument par cœur, mot à mot, mais c'est Adam, à la fin du discours de ces lamentations, Adam qui dit « Maintenant, j'ai même oublié le paradis perdu. J'ai même oublié ça. Mais maintenant, je suis dans une disposition d'esprit qui me remet face à face avec le Seigneur, sans même la peine d'avoir été chassé du paradis. Et là se trouve le nœud, l'essence de la signification du carême que nous allons vivre. Que nous soyons pécheurs, c'est un secret pour personne. La manière dont nous sommes pécheurs, ça, c'est un secret pour tout le monde. Mais face qu'elle est à l'orée, à l'entrée de ce carême, quelle attitude doit-on prendre les uns et les autres par rapport à notre péché? Comme dans les lamentations d'Adam, faut-il se lamenter d'avoir quitté le paradis? Là n'est pas le problème. Adam dit que ce qu'il... au début des lamentations, il dit que ce qui est sa peine, c'est moins d'avoir été obligé, d'avoir été chassé du paradis et de ne plus y avoir accès, mais c'est d'avoir perdu l'amour de Dieu, ou l'attention de Dieu. Soyons clairs, l'amour de Dieu, on ne le perd jamais. Dieu nous aime à l'infini et il nous aime toujours. Simplement nous, dans l'attitude que nous, suivant l'attitude que nous avons dans notre cœur, où nous sommes réceptifs à cet amour ou nous n'y sommes pas. Et le péché nous met dans une situation de non-réceptivité, de non-ouverture à l'amour de Dieu. Et notre souffrance peut-être double. C'est-à-dire notre souffrance est peut-être de se sentir mal à l'aise, mal dans notre peau, parce que nous avons péché et nous avons honte. Mais ça, c'est pas le bon sentiment. Ça, c'est encore une forme égoïste de repliement sur soi-même pour avoir perdu quelque chose. Quelque chose de bon, bien sûr, mais de l'avoir perdu. Le véritable sentiment, c'est de souffrir, de ne plus être réceptif à l'amour de Dieu, d'oublier cet amour, de se sentir loin de lui. Et de voir que, malgré nos efforts assez relatifs, malgré nos efforts, nous ne retrouvons pas cette liberté, cette proximité que nous avions avec lui. Mais précisément, cette souffrance de sentiments, de sensations d'éloignement est aussi le médicament, la thérapie que Dieu permet pour que nous retrouvions retrouvions la faim ou la soif, vous voulez, de l'amour de Dieu, que nous ayons envie, que nous recherchions encore cet amour de Dieu. Et c'est comme ça que au long de notre vie, au long de nos conversions successives, qui n'est qu'une conversion progressive, on peut être amené à ne pas négliger, évidemment, mais ne plus faire attention, ne plus être suffisamment sorti de soi-même, sorti de son égoïsme, pour ne plus souffrir seulement de l'état dans lequel on est, mais souffrir simplement d'avoir peiné le Seigneur. Ça, c'est l'attitude globale de notre du carême que nous allons vivre. Et vous vous rappelez évidemment que le carême n'est que le symbole, si je puis dire, n'est que l'exemple limité dans le temps, ça ne dure quand même que 40 jours, c'est l'exemple de ce que doit être, le symbole de ce que doit être toute notre vie. C'est toute notre vie qui est un carême. C'est toute notre vie qui est une prise de conscience de notre éloignement de Dieu et des pleurs. Non pas un découragement, mais une douleur intérieure de voir que nous sommes éloignés de lui, que nous ne le connaissons plus, que nous ne le sentons plus, que nous avons beau le vouloir, il semble sourd à notre prière. Mais c'est aussi en cela que le carême est un symbole de toute notre vie, en même temps que nous sentons ce vide à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons la foi, nous savons que Dieu est malgré tout présent, et peu à peu, nous nous ouvrons à cette présence insensible, souvent insensible, nous ouvrons et nous retrouvons une intimité, nous retrouvons une connaissance de Dieu à travers l'inconnaissance. C'est la lumière qui arrive peu à peu à travers les ténèbres qui sont les nôtres à cause de notre péché. Et ceci, nous le vivons symboliquement pendant le carême, puisque nous nous privons d'un certain nombre de choses, de nourriture. Ce que vous avez à table ce soir, vous ne l'aurez plus pendant 50 jours, pour montrer, pour expérimenter, pas pour montrer aux autres, mais pour expérimenter nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, que ces denrées périssables ne sont pas fondamentales, que ce n'est pas elles qui nous donnent la joie et le bonheur. Ça nous permet seulement de survivre si on les utilise à bon escient. Mais après cette relativement longue période de 50 jours d'abstinence, nous serons illuminés par la grande semaine et à travers la passion du Christ aurons accès aussi à la joie de la résurrection, joie pascale que vous connaissez tous et à laquelle nous sommes tous conviés cette année encore et les années à venir si Dieu nous prête vie. Saint Paul, dans l'épître que nous avons entendu et que nous avons lu ce matin, nous dit, pour commencer, est-ce que vous, enfin, je le pose en forme de question, mais savez-vous à quel moment nous vivons ? On serait tenté de dire oui. Mais que veut-il dire en s'exprimant ainsi ? Ça ne veut pas dire qu'il nous rappelle que nous vivons au XXIe siècle, et que nous avons tel âge. C'est-à-dire, est-ce que nous nous rendons compte de l'importance du moment que nous vivons ? Savons-nous ce que signifie l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Nous rendons-nous compte que ces minutes que nous vivons sont d'une certaine manière les plus déterminantes dans notre vie, puisque ces minutes sont la seule fenêtre ouverte sur l'éternité, puisque le passé n'existe plus, par définition. Il laisse une empreinte, une marque sur nous, mais il n'existe plus. Donc on ne vit pas pour le passé. L'avenir n'existe pas encore, donc il n'existe pas non plus. On peut le pressentir, mais on n'est pas sûr du lendemain. Par contre, le moment présent, c'est le moment qui est ouvert sur l'éternité. C'est le seul moment où nous sommes véritablement libres, le moment où nous pouvons faire non pas ce que nous voulons, mais ce que nous choisissons de faire ou d'être. Quel moment, savez-vous, quel moment nous vivons ? Ce moment-là, dans la bouche de Saint Paul, c'est le moment de la fin des temps, dans le sens où je viens d'essayer de vous l'exprimer pour nous. C'est-à-dire, c'est le moment où, quand Saint Paul parle, le moment où enfin le Messie qui avait été prédit, prévu pendant tant de siècles de l'Ancien Testament, enfin s'est révélé à nous. Et se révélant en nous, presque aussitôt, il se dissipe à notre regard. On ne peut pas le prendre, on ne peut pas le toucher, comme il dit à la résurrection à Sainte Marie-Madeleine. De nouveau, il nous paraît, nous sommes dans une situation comme dans l'Ancien Testament, où il nous semble inaccessible. Et pourtant, il est accessible. Et pourtant, il est présent. Il est venu parmi nous. Et il y demeure, invisiblement présent, mais pour que nous puissions le sentir, pour que nous puissions le voir d'une certaine manière, il nous a envoyé son Esprit Saint, qui est la venue de l'Esprit Saint dans le monde, crée des temps nouveaux, les temps de l'éternité. Maintenant, parce que l'Esprit Saint est là, le Christ continue à vivre parmi nous et il nous est donné, si nous prenons un minimum de moyens pour cela, mais ne monnayons pas trop ces moyens, et les moyens nous sont donnés pour que les yeux de notre foi s'écarquillent et voient la réalité, voient la présence de Dieu, de manière à ce que, comme Adam, je fais encore allusion aux lamentations que nous avons entendues, que comme Adam, nous n'ayons plus la souffrance de ne pas voir le Christ à cause de notre péché ou de notre non-conversion, mais que nous dépassions ça et que nous connaissions une autre forme de relation avec le Christ que nous fait connaître l'Esprit Saint qui nous conduise au Père par la foi. Car qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi n'est pas uniquement de croire en un système théologique, en un catéchisme plus ou moins élaboré, mais la foi consiste à croire que Jésus est venu dans le monde, qu'il est Dieu et homme, et qu'il est encore présent aujourd'hui, mais non seulement de le croire intellectuellement ou avec le cœur, mais d'être prêt à assumer les conséquences de cela. S'il est présent avec nous, s'il est présent en nous, s'il est présent au milieu de nous, là, en ce moment même, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Ça implique une certaine attitude de notre regard, une certaine attention. Et cette attention-là est subordonnée, si je puis dire, est subordonnée à nos attitudes physiques et psychologiques. Si nous voulons faire attention à Dieu, si nous voulons percevoir la présence de Dieu qui se manifeste dans ces temps qui sont les derniers, il faut que nous apprenions à nous détacher de ce monde. Comment être attaché au monde de l'au-delà, qui est déjà présent aujourd'hui, qui est accessible? Mais comment s'attacher à ce monde si on se cramponne comme un avare au bien de ce monde? Il faut se détacher de tout. Et le carême est un apprentissage d'un détachement fondamental de toute chose à travers le détachement provisoire des nourritures, des petits plaisirs et de tout ce qui fait la loi du carême. C'est pour ça qu'à la fin de son épître, pas de son épître, mais du passage qui était lu ce matin, Saint Paul dit aux Romains, donc à nous, de ne pas juger celui qui n'a pas jeûné, alors que c'est une période de jeûne. Qu'est-ce qu'on a regardé les uns les autres? Le bon carême n'est pas forcément un carême où on aura accompli tous les préceptes de l'Église, où on n'aura mangé aucune viande, aucun laitage, aucune goutte d'huile, qu'on aura doublé le temps de prière, qu'on aura jeûné dans nos relations conjugales, etc. Là n'est pas l'essentiel. Ces choses-là sont des moyens, mais pas des buts en soi. Le jeûne n'est pas un but. On ne peut pas finir le carême en disant « Mon carême a été mauvais parce que j'ai fait des entorses de nourriture. » Ou bien alors « j'ai pas été attentif à la nourriture. » Est-ce que Dieu, vous croyez, est-ce que Dieu va nous juger pour une bouchée de fromage en trop, ou même un steak? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pourtant, cette bouchée de fromage ou ce steak peuvent nous conduire ou au royaume des cieux ou en enfer. Je veux dire par là que l'important n'est pas de manger ou de ne pas manger. L'important est l'attitude intérieure qui est la nôtre, qui nous force à manger ou à ne pas manger. C'est l'attention que nous avons à la présence de Dieu, non pas pour accomplir des règles, mais vraiment pour ouvrir notre cœur à une autre dimension que la dimension quotidienne, si je puis dire. C'est apprendre à jeûner, non pas pour faire plaisir à Dieu. Vous croyez que ça fait plaisir à Dieu de nous voir jeûner? J'espère, je crois qu'il est au-delà de ça. Sinon, on est tous perdus si on est jeûné là-dessus. Mais par contre, l'attitude que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, en disant finalement, moi je jeûne, j'en ai rien à faire, le Seigneur il m'intéresse pas. Ah, là le Seigneur m'intéresse pas. Si au contraire, je fais attention, comme c'est une période où on fait plus attention au Seigneur, pour faire attention à lui, bien non, je ne vais pas manger ceci et cela, ou faire ceci et cela. Vous voyez, l'attitude est complètement différente. Ce n'est pas des règles à accomplir en elles-mêmes, c'est une attitude à avoir. Et cette attitude n'est pas uniquement, comme je viens de l'exprimer, une attention à Dieu, mais c'est vraiment une prise de conscience de la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire en nous personnellement et en nous Église, et de notre mise, de notre réglage, de notre mise en situation devant cela, puisqu'il est présent, que puis-je faire pour le sentir, pour le voir avec d'autres yeux que les yeux de la tête, évidemment. Mais que puis-je faire pour vivre en communion avec lui? La seule chose qui soit importante pour le carême, c'est ce désir de la vie commune, consciente, avec le Christ et avec les autres, évidemment. C'est pour cela que non seulement le jeûne est requis, mais qu'aussi la charité, l'amour commun est encore plus fondamental que les règles de jeûne. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de l'office des compliques que nous allons célébrer maintenant, nous passons tous les uns devant les autres et nous demandons mutuellement pardon. Nous demandons pardon pourquoi? Il y a beaucoup de personnes ici pour lesquelles je pense ne pas avoir fait de mal. Parce que je ne vous vois jamais, ou je vous vois souvent, disons, apparemment. Et puis que je n'ai pas envie de vous faire de mal, enfin, et de quoi je vais vous demander pardon? Il se peut que j'ai blessé quelqu'un, volontairement ou involontairement, ça je peux en demander pardon. Mais il y a un autre pardon. C'est le pardon pour être ce que je suis, pour être pécheur. Je vous demande pardon d'être pécheur. C'est-à-dire que nous avons l'occasion de le dire lors de d'autres événements. Notre vie en Église fait que nous sommes tellement intimement liés les uns avec les autres que l'attitude de l'un rejaillit en bien ou en mal sur les autres. Quand vous avez un écran d'ordinateur sur lequel il y a un seul pixel qui manque, ça vous fait une petite lumière verte. Combien de gens renvoient l'écran au vendeur parce qu'il veut un écran avec tous ses pixels, alors qu'il y en a des millions d'autres? Vous voyez qu'une seule petite lumière qui n'est pas en communion, en conformité avec les autres, fait que c'est tout l'écran qui est gâché, si on est un peu pointilleux. Et entre nous, il y a quelque chose de semblable. Mes péchés, même ceux que vous ne pouvez pas connaître, ceux qui sont dans le fond de mon cœur et que personne ne connaît, mes péchés rejaillissent sur vous et vous salissent en quelque sorte, vous altèrent votre conscience de la présence de Dieu, vous rabaisse aussi. Donc de cela, je vous demande pardon. Je ne suis pas en train de faire une expression, c'est un exemple. Et c'est de cela que nous nous demandons pardon tous. Évidemment, cette demande de pardon doit être, pas récompensée, mais doit être accueillie par celui auquel on demande pardon, par un pardon réel, par vraiment un sacrement. Au nom de Dieu, je te pardonne. Donc toutes tes fautes, que le Seigneur te les enlève. C'est pour cela que nous avons la prière d'absolution à la fin de l'office. Non pas pour permettre une confession générale sans expression de son péché, mais parce que précisément, le péché est un péché commun. Et pendant que nous sommes en Église, puisque le Seigneur est présent non seulement au milieu de nous comme la 61e personne, mais comme nous unissant en un seul corps, à ce moment nous avons le pouvoir donné par Dieu, effectivement, d'effacer les péchés. Pas par nous-mêmes, mais par le Christ que nous supplions. C'est la raison pour laquelle nous avons cet office de pardon. Mais évidemment, vous comprenez bien que ça nécessite aussi un pardon absolu de notre part. Donc, un non-jugement, une acceptation de l'autre tel qu'il est. Mais ça ne nous justifie pas pour autant. Ça ne veut pas dire que parce que nous recevons cette absolution générale, on peut continuer à tromper sa femme, à taper son voisin qui ronfle trop fort et à boire plus qu'il ne faudrait.